Voilà, je vous invite à ouvrir à nouveau avec moi le livre du prophète Ésaïe, s'il vous plaît. Livre du prophète Ésaïe au chapitre 54 et au verset 1er. Vous savez que depuis la semaine dernière, nous avons repris notre thématique « Soyez remplis de l'Esprit ». S'il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à étudier, à découvrir, à redécouvrir, à comprendre dans la parole de Dieu au sujet de la personne glorieuse, merveilleuse, extraordinaire, toute puissante du Saint-Esprit. Il est vrai aussi que nous avons à vivre, pas seulement à comprendre, mais qu'il nous faut vivre une vie concrète, pratique avec lui. Et même si nous passions des années à étudier la personne du Saint-Esprit, nous pourrions le faire sans malheureusement en vivre plus, en vivre davantage, alors que la volonté de Dieu est claire. Vous savez que c'est ce qui presse mon cœur, c'est mon désir, c'est ce que j'ai réellement à cœur pour ma propre vie, pour l'Église ici à Manosque, pour notre pays, c'est que nous puissions vivre davantage dans les dimensions de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre davantage dans ses dimensions à lui, tant sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. C'est chacun et tous, chacun pour notre propre part, mais aussi tous ensemble. Mais il faut bien comprendre, frères et sœurs, que ce que nous allons vivre ne dépend pas seulement de Dieu. Ça peut être choquant ce que je vous dis. Oui, Dieu est tout-puissant, mais la toute-puissance de Dieu ne suffit pas. Parce qu'en toute chose, il y a sa part. Dieu fait toujours la part d'impossible, mais il y a aussi en toute chose notre part. Et nous avons notre propre responsabilité dans cette dimension de vie que Dieu veut et peut nous accorder. Nous avons notre propre responsabilité. La Bible nous place sans arrêt devant la toute-puissance, devant la grandeur de Dieu, devant l'immensité de sa grâce. Elle nous dit de différentes façons, dans différents passages, que Dieu est le Dieu infini. Dieu est le Dieu qui veut et peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Mais elle nous place aussi face à notre propre responsabilité. C'est pour ça que ce message est sur mon cœur depuis la semaine dernière pour attaquer cette rentrée ensemble. La Bible lance ce cri dans le prophète Ésaïe, chapitre 54, « Élargis, élargis l'espace de ta tente ». On relit rapidement, simplement, avant d'aller plus loin ensemble, les trois premiers versets du chapitre 54. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Ici, le prophète Ésaïe est en train, de façon métaphorique, de façon imagée, de nous faire comprendre que Dieu veut et peut faire dans l'avenir, dans nos vies, dans nos églises, dans notre pays, bien plus que ce qu'il a déjà fait par le passé. Il est aussi en train de nous dire qu'il a besoin de plus de place. Paul, le faiseur de tentes, avait compris cela. On a lu la semaine dernière, souvenez-vous, dans Éphésiens chapitre 3, on a lu que Paul parle de largeur, il parle de longueur, il parle de hauteur, il parle de profondeur et aussi de cette puissance de l'Esprit qui agit en nous et de sa volonté de nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Rempli, rendez-vous compte, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et si j'ai compris ça, tout de suite, je regarde l'intérieur de mon propre cœur et je me pose la question suivante. Comment est-ce que je vais faire rentrer la plénitude du Dieu aux dimensions infinies dans un dé à coudre? Oui, nous avons un Dieu aux dimensions infinies. Nous avons un Dieu aux dimensions vertigineuses. Il est tellement grand qu'il faut sans cesse avoir recours à des images pour essayer de comprendre qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il peut, il fait, il veut et peut infiniment au-delà. C'est un Dieu qui veut relâcher davantage sa présence et sa puissance dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos villes. Il veut, il peut relâcher sa présence, sa puissance. Mais il veut aussi nous faire comprendre notre part, notre responsabilité. Et cette tente dont il est question ici, c'est l'habitation spirituelle de Dieu. Je résume très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, c'est l'habitation spirituelle de Dieu, le Saint-Esprit. Notre cœur, mon cœur et l'Église, c'est l'habitation de Dieu. Nous sommes, je suis, vous êtes, la tente du Seigneur. Nous sommes son tabernacle vivant. Et lorsqu'il est dit dans Ésaïe, élargis l'espace de ta tente, c'est une image pour nous faire comprendre qu'il faut faire plus de place à celui qui veut se manifester dans sa grandeur et dans ses dimensions. Fais-lui plus de place, aménage de nouveaux espaces de vie et d'action au Saint-Esprit. Il veut et peut faire infiniment au-delà, mais il faut élargir nos cœurs. La réalité, frères et sœurs, mais il faut le comprendre, c'est extrêmement important. La vie et l'action du Saint-Esprit en nous et dans l'Église sera toujours proportionnelle à la place que nous allons lui laisser dans notre cœur et au milieu de nous. Ça, il faut que je le répète, je pense. La vie et l'action du Saint-Esprit en nous et dans l'Église sera toujours proportionnelle à la place que nous allons lui laisser dans nos cœurs et au milieu de nous. C'est pour ça que le prophète dit « élargis, fais-moi plus de place ». Et nous l'avons vu la semaine dernière, quand nous voulons faire plus de place dans nos habitations humaines, nous faisons quelque chose de très simple, nous cassons des murs, nous renversons des murs pour créer de nouveaux espaces de vie, pour avoir de nouvelles perspectives, pour voir plus loin, pour accueillir plus de monde, pour être plus à l'aise. Nous cassons des murs pour créer de nouveaux espaces de vie. Et si nous le faisons pour nos habitations humaines, nous sommes appelés à le faire pour notre habitation spirituelle. Alors il faut faire des travaux. Et puisque la vie avec Dieu, c'est du concret, c'est du pratique, nous avions terminé la semaine dernière avec cette question sérieuse. J'espère que chacun a pu la prendre en compte pour son propre cœur, pour sa propre vie. Quel mur est-ce que moi, je vais abattre dans ma propre vie pour laisser plus de place à l'Esprit de Dieu ? Il faut faire des travaux. Et une fois qu'on sait qu'il faut faire des travaux, vient un autre point fondamental dans nos raisonnements. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Combien est-ce que je vais devoir débourser? Combien est-ce que je vais devoir dépenser pour faire ces travaux? Souvent, ce qui nous arrête dans notre élan, lorsque nous nous sommes engagés dans des travaux, dans nos maisons, dans nos appartements, c'est le coût. Et c'est parce que nous allons devoir malheureusement investir trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent, que nous allons malheureusement revoir nos ambitions à la baisse. Et ce qui nous casse, ce qui nous arrête dans nos élans, c'est le prix, c'est le coût. Il y a le coût financier, le coût de temps, il y a aussi, et oui, la gêne occasionnée par les travaux, la gêne occasionnée par le changement. Tout cela va nous amener à nous restreindre, à revoir nos ambitions à la baisse. La question logique, juste après, c'est le coût. Mais le Seigneur ici, après avoir dit « élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure », il va dire juste derrière « ne retiens pas ». La deuxième chose qu'il dit, c'est ne retiens pas. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? Bien justement, le Seigneur est justement en train de me parler de coût. Il est en train de me dire de ne pas me laisser arrêter par ce que ça va me coûter. D'autres versions de Bible ont traduit « ne retiens pas » par « ne regarde pas à la dépense ». Bible en français courant. ne regarde pas à la dépense. Version Parole de Vie, ne calcule pas tes dépenses. Ne retiens pas. Le verbe retenir signifie littéralement refuser, se restreindre, garder pour soi. Il y a vraiment une pensée de calcul et de faire l'économie de quelque chose. Et après m'avoir dit « élargis l'espace de ta tente », le Seigneur est en train de me dire « surtout ne te restreins pas, surtout arrête de regarder à ce que ça va te coûter, ne regarde pas à ce que ça va te coûter ». Vous savez, juste avant Ésaïe 54, qui nous place face aux promesses merveilleuses de Dieu et à notre propre responsabilité, juste avant Ésaïe 54, il y a Ésaïe 53, qui nous dépeint de façon prophétique l'œuvre, l'agonie de Jésus sur la croix. Et on sait que rien n'a pu retenir Jésus de venir nous chercher. Rien n'a pu retenir Jésus de venir te chercher. Il ne s'est pas retenu, il n'a rien retenu. Il ne s'est pas restreint. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas regardé à ce que ça allait lui coûter. Alors qu'il allait payer le prix le plus élevé sur la croix, il n'a pas regardé à ce que ça allait lui coûter. Premièrement, il a regardé à Dieu le Père. Deuxièmement, il a regardé à toi. Troisièmement, il a regardé à la bénédiction, à la postérité qui était à venir. Il verra une postérité, dit Ésaïe 53. Avant de me demander de renverser des murs, n'oublions pas que Jésus est celui qui a renversé le mur le plus infranchissable, le mur avec un M majuscule, Éphésiens 2,14, le mur d'inimitié entre Dieu et nous, le mur qui nous séparait de Dieu le Père. Jésus a renversé ce mur. Avant de me demander de payer le prix, de payer certains prix, avant de me dire « ne regarde pas ce que ça va te coûter pour que je puisse vivre et me manifester, me mouvoir davantage dans ta vie, dans ton église », avant de me demander de payer le prix, Jésus a payé lui aussi le prix le plus élevé. Et il doit en toute chose rester aussi mon exemple. Vous savez, frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer, ne l'oublions jamais. Avec Dieu, il y a toujours un coût. Et c'est normal. Ce que ça coûte, évidemment, ne sera rien en comparaison de ce que je vais recevoir en contrepartie. Mais il y aura toujours un coût. Oui, c'est toujours un moins pour un grand plus. Ce sont les mathématiques divines. Moins égale plus. Si j'accepte moins dans ma vie, j'aurai plus d'un autre côté. Si j'accepte moins moins, j'aurai plus plus. Moins 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 égale plus plus plus. Et plus j'accepte de payer des prix, plus j'accepte du renoncement, on va le voir dans différents domaines pratiques, plus j'accepte de payer le prix, plus j'accepte, oui, qu'il y ait un coût pour élargir, pour aménager, pour casser des murs, plus j'accepte ce prix, ce coût, plus il y aura une bénédiction à la hauteur de ce que j'ai accepté en termes de coût. Je le dis aussi ainsi, pardon, j'espère ne pas vous choquer, mais avec Dieu, vous jouez à qui perd gagne. La vie chrétienne n'est pas un jeu, évidemment. Mais vous jouez à qui perd gagne. Et plus tu accepteras de payer le prix avec Dieu, plus tu seras béni et plus tu seras gagnant. Alors, dans quel domaine pratique, puisque la vie chrétienne, c'est du concret, c'est du pratique, nous sommes bien d'accord. Nous avons parlé de façon concrète des murs que nous devions, nous, abattre, renverser, pour faire plus de place à l'esprit. Et quand il est question de ne pas retenir, ne pas regarder à la dépense, arrêter de regarder ce que ça va nous coûter, dans quel domaine pratique nous devons apprendre à ne pas regarder ce que ça va nous coûter ? Il y a tellement de choses et de gens que l'on retient. Qui et quoi ? Qui est-ce que je retiens ? Ah, vous savez, la première pensée qui est venue sur mon cœur en méditant ce message, en méditant ce texte, j'ai tout de suite pensé aux autres que l'on retient prisonniers dans notre cœur quand nous refusons de payer le prix du pardon. Il y a certaines affaires, certains dossiers, certains prisonniers que l'on retient dans notre cœur. Vous connaissez l'expression ? Ah, celui-là, je le retiens. Celle-là, avec ce qu'elle m'a dit, avec ce qu'elle m'a fait, vu comment il ou elle s'est comporté, ah, celle-là, je la retiens. Croyez-moi, frères et sœurs, pardonnez-moi d'être direct, s'il y a quelque chose que l'on devrait retenir par-dessus tout, c'est notre langue. Ah, je le retiens. Au lieu de le libérer, libère-le et libère-toi. Encore une fois, Jésus, l'exemple suprême, lui, Jésus, ne nous a pas retenus, mais il nous a libérés, il nous a affranchis. Et parce que nous avons été mis au bénéfice de sa grâce, cette grâce nous rend responsables. C'est la grande leçon de la parabole du serviteur impitoyable. Lorsque ce serviteur qui a retenu son compagnon, il l'a retenu, il l'a fait prisonnier, il l'a saisi à la gorge, il l'étranglait, il lui a dit « paye ce que tu me dois ». Alors que le roi miséricordieux lui avait accordé la liberté, il lui avait accordé sa grâce sur une dette incommensurable qu'il n'aurait jamais pu payer. Et en sortant du palais royal, ce serviteur qui vient d'être mis au bénéfice d'une grâce innommable, immense, inexprimable, tellement elle est grande, merveilleuse, surabondante, surprenante, la grâce du roi miséricordieux a été au-delà de ce que le serviteur attendait. Et quand il voit son compagnon qui lui doit 2 francs 6 sous, eh bien il l'attrape, il le saisit, il le fait prisonnier, il le retient prisonnier. Et le roi miséricordieux le fait comparaître devant lui et il lui dit « Je t'avais remis ta dette ». Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir compassion de ton frère comme j'ai eu compassion de toi ? Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir compassion de ton frère comme j'ai eu compassion de toi ? Cette grâce merveilleuse fait de nous des gens responsables. Et parce qu'il a retenu son frère, il a été ensuite retenu par des bourreaux spirituels. Pouvons-nous comprendre, frères et sœurs, que les prisonniers que nous retenons dans notre cœur, ainsi que les bourreaux spirituels qui nous retiennent parce que nous retenons des prisonniers, pouvons-nous comprendre que ces prisonniers et ces bourreaux prennent beaucoup trop de place et empêchent Dieu le Saint-Esprit de se mouvoir, d'agir et de faire ce qu'il a à faire? Oui, le pardon, ça coûte. Regardez Jésus sur la croix et vous pourrez jamais dire que le pardon, ça coûte rien. Évidemment, pour nous obtenir le pardon le plus élevé, le plus puissant, le plus libérateur qui soit, Jésus a payé le prix le plus élevé qui soit. Évidemment, le pardon, il y a un coût. Et c'est là, dans ce domaine, que je dis, ne retiens pas les autres, prisonnier dans ton cœur. Accepte de payer le prix du pardon, libère-toi et libère-le de cette dette. Paye le prix, c'est ta qualité de vie qui en dépend. Ne retiens pas, ne calcule pas ce que ça va te coûter. Qui pouvons-nous retenir encore ? J'ai pensé à des relations malsaines, des relations nocives, des relations destructrices. Frères et sœurs, la Bible est claire sur le fait que, même si nous ne sommes pas du monde, nous n'aimons pas ses principes, nous ne cautionnons pas son péché, ses priorités, ses principes, sa mentalité, son état d'esprit, la Bible est claire sur le fait que nous sommes dans le monde et que si nous ne sommes pas d'accord avec ses principes et son état d'esprit, qui sont antagonistes aux principes du royaume de Dieu, nous sommes dans ce monde et nous aimons ce monde. Non pas que nous sommes d'accord, mais nous aimons ce monde. Et nous voulons C'est ce que la Bible dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors évidemment, il n'est pas question de couper les ponts, il n'est pas question de fermer notre cœur, il n'est pas question de ne plus aimer, il n'est pas question de ne plus avoir de relation avec personne, sinon on deviendrait des pharisiens. Mais je veux parler de façon très précise de relations, liens, reliés, des relations qui sont malsaines, des relations qui peuvent être nocives, destructrices. La Bible est claire aussi sur le fait qu'il y a des fréquentations qui sont dangereuses. Le livre des Proverbes dit « Ne fréquente pas l'homme colérique, de peur que tu ne t'habitues à sa voix. » La Bible nous montre qu'il y a des fréquentations qui sont malsaines. Il y a des fréquentations que je ne peux pas tolérer. Les mauvaises fréquentations, dit Paul, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Je parle bien de fréquentations qui sont dangereuses au sens où elles nous tirent vers le bas. Elles éloignent notre cœur de Dieu. Ces relations-là, je n'ai pas la force de les gérer. Elles sont trop lourdes pour moi, elles sont trop lourdes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces relations, tu n'as pas la force de les gérer, elles sont trop lourdes pour toi? Eh bien, tout simplement, frères et sœurs, il faut être clair. Parce qu'il est des gens qui sont beaucoup plus enracinés dans le péché que nous dans la sainteté. C'est tout. Il est des gens qui sont beaucoup plus enracinés dans le royaume des ténèbres que nous dans le royaume de la lumière. Et ne nous faisons pas d'illusions. C'est toujours le plus enraciné des deux qui va déraciner l'autre. C'est toujours le plus fort des deux, le plus enraciné des deux qui va gagner l'autre. Et ces relations, je précise encore, des relations qui éloignent mon cœur de Dieu, ces relations-là, il faut les couper. Ces relations-là, il ne faut surtout pas les retenir. Ah oui, ça va coûter de perdre cet ami. Et attention, je mets des grosses guillemets sur le mot « ami ». Oh oui, ça va te coûter. Tu vas sentir quelque chose se couper, se déchirer en toi, se renverser en toi, quand peut-être tu devras couper avec ce copain, avec cette copine, avec cette relation. Mais dis-toi bien que ce que ça va te coûter quand tu vas couper cette relation n'est rien en comparaison de ce que ça va te coûter si tu continues dans cette voie avec ce genre de relation. Par contre, je sais aussi que ce que ça va me coûter en coupant ce genre de relation n'est rien en comparaison de ce que je vais retrouver une fois que ce mur sera renversé, une fois que j'aurai payé le prix en coupant cette relation. Ce que je vais payer n'est rien en comparaison de ce que l'Esprit de Dieu va pouvoir ensuite faire, combler dans mon être intérieur, une fois que j'aurai accepté de payer le prix. Qui est-ce que je peux retenir encore? Eh bien, c'est simple. Moi. Ma propre vie. C'est nous que nous retenons. Nous retenons, frères et sœurs. Nous retenons. Alors que la Bible nous appelle à nous offrir nous-mêmes, tout entier à Dieu. Paul aux Romains, chapitre 12, en réponse à l'amour de Jésus, sur la base de son exemple, c'est la réciprocité. Je suis appelé à vivre une vie qui soit totalement abandonné entre ses mains, une vie entièrement livrée sur son autel. Je suis le sacrifice saint, mis à part, agréable à Dieu. Je suis l'offrande logique, le culte raisonnable. Et bien souvent, frères et sœurs, c'est en matière de don de soi que nous refusons de payer le prix. Nous refusons de payer le prix de la consécration. Nous retenons notre consécration. Nous retenons notre vie. Et Dieu, Dieu doit se contenter des restes. Il doit se contenter des restes de mon temps, des restes de mon énergie. Je me suis tellement dépensé à tellement de choses, plus ou moins légitimes. Je mettrai des grosses guillemets sur légitimes. On n'en a pas tous la même définition. Dieu doit se contenter des restes de mes biens, de mon attention, etc., etc. Et puis, dès qu'il va falloir donner un petit peu plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a ce langage un petit peu bizarre qui n'est pas du tout biblique. Entre nous, entre chrétiens, les pasteurs aussi, malheureusement, on peut avoir ce langage-là. Et on va parler, quand il va falloir donner un peu plus, on va parler de faire un effort. Il y a des endroits, les pasteurs sont obligés sans arrêt de demander aux chrétiens, ce n'est pas le cas ici à Manosque, merci Seigneur, mais il y a des endroits, des pasteurs sont obligés de dire, frères et sœurs, on pourrait faire un effort financier. Mais si j'ai compris que tout ce que j'ai me vient de Dieu, tout ce que j'ai me vient de lui, s'il ne m'avait béni, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Si je ne comprends pas que moi, tout ce que je suis et tout ce que j'ai est à lui, chaque fois qu'il faudra donner un peu plus, on parlera d'effort, on aura l'impression de faire un gros effort. Parfois, on parle aussi d'effort d'évangélisation. On va faire un effort d'évangélisation. Et pour préparer cet effort d'évangélisation, on va faire un effort dans la prière. Et de où l'évangélisation, c'est un effort? De où le témoignage, c'est un effort? Pourquoi est-ce que je dois me forcer pour témoigner, pour parler de Jésus? Depuis quand prier, c'est un effort? La prière, c'est la respiration de mon âme. Parler des merveilles de celui qui m'a appelé, lavé, purifié, guéri, sauvé, régénéré, qui est tout ce que j'ai de mieux, mon trésor, ma perle, ce qu'il y a de plus extraordinaire, il est ma richesse, il est mon trésor. Parler de lui, en quoi c'est un effort? Normalement, c'est naturel, si ma vie est à lui, c'est naturel. C'est complètement, c'est totalement naturel. Depuis quand c'est un effort de venir à la réunion de prière? On est obligé aussi de faire des efforts. Bon frère, s'il vous plaît, on sait que cette histoire, c'était quand même pas simple dans l'église, hein, d'accord. S'il vous plaît, faites, vous pourriez faire un effort pour tenir votre langue? Non mais si j'ai compris, si j'ai été bouleversé par la grâce de Dieu qui me dit dans le prophète Sophonie qu'il garde le silence sur mes fautes, je fais pas un effort pour tenir ma langue. Ma langue, elle tient toute seule dans sa boîte. Terminé. Je ne fais pas un effort pour ne pas parler mal de l'autre. Je ne fais pas un effort pour ne pas penser mal de l'autre. Ça devient naturel parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, chaque membre de mon corps appartient à Dieu, y compris ma langue, y compris mes pensées. Etc., etc. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre dans l'esprit du don de soi. Pas à faire des efforts. Vivre avec cette mentalité, cet état d'esprit de l'offrande entière de ma vie. Une vie entièrement livrée sur son autel. Une vie totalement abandonnée entre ses mains. Pardon, mais Jésus n'a pas besoin que vous fassiez un effort pour lui. Jésus a besoin que tu lui donnes ta vie entière. Jésus, lui, n'a pas fait un effort pour venir me sauver, pour venir me chercher. Jésus, il s'est donné lui-même tout entier à moi sur la croix, à toi. Et Jésus, aujourd'hui, n'a pas besoin que je fasse un effort. Il a besoin que je lui abandonne et que je lui donne ma vie entière. Le Saint-Esprit, il n'a pas besoin qu'on fasse des efforts pour lui. Le Saint-Esprit, il a besoin de toute la place. Qui est-ce que je retiens? Les autres? Des relations malsaines? Moi, ma propre vie, ma consécration? qu'est-ce que je retiens? Parfois, je retiens mon temps. Je passe des heures innombrables, interminables, pour des tas de choses qui me passionnent, qu'elles soient légitimes ou pas. Quand je mets le nez dans ma couture, dans mon bricolage, dans les travaux de ma maison, dans l'entretien de ma voiture, dans mon jardinage, dans mes loisirs, dans mon sport, dans mon machin. Dieu a rien contre ça, hein. C'est bien, hein, il faut aller au sport, hein, moi j'y vais, je fais du sport, c'est bien. Il y a des tas de choses qui sont belles, qui sont légitimes, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je passe des heures, je ne compte jamais, jamais mon temps pour ces choses-là. Je ne les compte jamais, qu'elles soient plus ou moins légitimes. Et puis quand c'est pour Dieu, je commence à avoir le temps long. Je suis peut-être des fois intarissable au téléphone, je n'ai absolument aucun problème à écouter des gens qui me font absolument pas de bien, mais j'écoute et je passe des heures interminables avec des conversations à écouter des gens qui sont absolument pas édifiants, qui me plombent plus qu'ils m'édifient. Mais quand il s'agit de se taire, de se poser devant Dieu et de rester pour écouter, soit par la voix de sa parole, soit par la voix de la prière, pour attendre la réponse dont j'ai besoin, j'ai le temps long. Parfois, c'est mon temps que je retiens. Parfois, c'est mon argent que je retiens. Mes finances. Par peur, par inquiétude. J'ai peur d'eux. Quand on était dans le monde, frères et sœurs, combien d'argent vous avez dilapidé pour vos cigarettes, votre alcool, vos fiestas, les filles, les garçons, la Java, pour des futilités, pour essayer d'avoir des plaisirs, pour essayer de s'évader de notre misère de vie. On essayait de s'évader et on a dépensé sans jamais compter, quitte à se mettre dans des situations catastrophiques, dans des tas de domaines, on comptait pas. Pour des choses qui nous détruisaient, on comptait pas. Et quand le Seigneur, il me dit, honore-moi avec tes louanges matérielles, je vais te bénir.
4, je retiens 8, moins la racine carrée, 2, alors là, le mois dernier, il y avait ça, et cette année, alors ce mois-ci, non, alors plus, moins, Seigneur, je ne peux pas, bénis-moi, je te donnerai plus tard.
Encore une fois, Dieu n'est pas un mendiant dans le ciel. Dieu n'a pas besoin de mes sous, hein. Il n'a rien à faire de mon argent. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Qu'est-ce qu'il veut des quelques euros qu'on a mis là-dedans? Ça n'intéresse pas. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est pas pour lui que nous donnons. Il n'a pas besoin que je donne. Moi, j'ai besoin de donner. C'est moi qui ai besoin de donner, parce que quand je donne, je triomphe du piège de l'inquiétude. Je triomphe de la peur de manquer. Quand je donne, quand j'honore Dieu avec mes biens, avec mes dîmes, avec mes offrandes, en réalité, j'honore Dieu, c'est une façon de choisir entre mammon et Dieu. Et dans la dîme, dans les offrandes, dans ce que je donne, il y a un message, pas un acte légaliste, il y a un message, c'est un message que j'adresse à Dieu et c'est une démonstration de foi parce que je dis « Seigneur, j'ai beaucoup plus confiance dans ce que toi tu peux faire que dans cet argent. » Et si je suis dans cet état d'esprit-là, je ne retiens pas. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai besoin de donner à Dieu. C'est une façon de me délivrer de la peur et de l'inquiétude que suscite Mammon. Mammon, la divinité de l'argent dans la Bible. Mammon, ce maître dur, intransigeant, intolérant, qui suscite toujours la peur. Plus vous en avez, plus il vous tient sous son pouvoir, plus il vous fait peur et vous fait miroiter que vous manquerez. Donc il faut toujours plus et plus de peur et plus d'inquiétude et toujours avoir plus et amasser, amasser, amasser. Et puis Jésus dit, oh, amasse-toi des trésors dans le ciel, au moins cela, on va pas te les piquer. Et j'ai besoin de donner à Dieu de mes biens, de mon argent. C'est une façon de me dégager du pouvoir de Mammon. Et d'exprimer, je le redis, c'est un message fort. Je dis à Dieu, Seigneur, j'ai beaucoup plus confiance en toi que dans ce que cet argent aurait pu faire. Ça, c'est pour toi. Seigneur, je veux être libre de ça et je compte sur, 3, pardon, et je compte sur toi avant toute chose. Dernière chose, allez, j'ai mis 3 qui, je vais mettre 3 quoi. Qu'est-ce que je retiens ? Ma langue. Alors celle-là, c'est sûr qu'il vaut mieux la retenir quand on va dire des choses qu'il ne faut pas, mais il y a beaucoup de moments, frères et sœurs, où nous retenons notre langue et il ne faut pas. Lorsque nous retenons notre louange. La louange, c'est le terrain de Dieu. Quelqu'un a dit dans sa prière tout à l'heure, « Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. » C'est le terrain favorable de l'action de Dieu. Il est honoré, il est réjoui par cette expression par mes lèvres de ce que croit mon cœur, l'expression de ma foi qui passe par une confession. Il faut que ce soit audible, il faut l'entendre, il faut le dire. C'est une façon de prendre position pour la nature toute puissante et toute suffisante de Dieu. Et je le loue, j'exprime ma foi dans la nature, dans les attributs de Dieu. Et si je retiens ma louange, il y a forcément une dimension qu'il n'y aura pas dans ma vie, une dimension qu'il n'y aura pas dans ma maison, il y a une dimension qu'il ne pourra pas y avoir dans l'Église. Qu'est-ce que je retiens aussi ? Là, c'est évident, on est en train de parler du Saint-Esprit. Le parler en langue. Je retiens ce don, ce cadeau précieux que l'Esprit me fait, je retiens le parler en langue. On ne sait jamais ce que l'autre y pourrait penser. Ce n'est pas l'autre qui va construire et édifier ta vie, c'est le Saint-Esprit quand tu parles en langue. Je ne comprends pas ce que je dis hein, quand même. Oui, ben c'est un peu exprès, le Seigneur, il sait ce qu'il a fait quand même. Parce que c'est le seul moment où comme ça, je ne peux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Quand je parle en langue, c'est le seul moment où je suis sûr que je dis pas de bêtises. C'est du 200% sûr, 200% efficace. Et je retiens le parler en langue. Je laisse pas une vraie place au parler en langue dans ma vie. Et si je voulais bien laisser au parler en langue une vraie place dans ma vie de prière, dans ma vie de piété, dans ma communion avec Dieu, même dans mes rassemblements d'église, ça permettrait au Saint-Esprit, c'est ce que Paul dit, ce sont des murs, ce sont de nouveaux espaces que nous aménageons au Saint-Esprit, puisque l'apôtre Paul parle bien aussi de construction. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, littéralement, il se bâtit lui-même tout seul. Pierre après pierre, brique après brique, il s'édifie, il se construit, il se reconstruit. Parce que quand sont venus les chocs de la vie, les injustices, mes propres fautes, mes propres péchés, les coups, les blessures, c'est autant de chocs, de coups qui sont venus taper dans mes murailles spirituelles, dans les murailles de ma vie intérieure, et ce sont des morceaux de murailles qui tombent, qui s'écroulent, il y a des brèches, il y a des morceaux qui tombent. Et si je veux pas être obligé de mettre 10 ans pour reconstruire un truc, je me tiens devant Dieu et je parle en langue. Et quand je parle en langue, Paul me dit, celui qui parle en langue, il se construit, il se reconstruit lui-même, brique par brique. Et en l'espace de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, selon ce qui peut arriver, quand j'ai une vraie communion, quand je laisse une vraie place au Saint-Esprit avec le parler en langue dans ma vie personnelle et dans l'Église, le Saint-Esprit peut faire en quelques instants bien plus que ce que 10 ans de thérapie psychologique évangélique pentecôtiste ne feront jamais. Ne retiens pas ta langue. Ne retiens pas. Tu te prives, tu appauvris l'Esprit, tu appauvris l'Église, tu appauvris ta vie. S'il y a une vraie place pour le parler en langue dans ma vie, le Saint-Esprit peut sans cesse, je suis sans cesse renouvelé. Je sais que mon corps, lui, le schéma, il est tracé, il va descendre, je peux faire tout ce que je veux, il va descendre, on ne l'évitera pas, c'est le même lot pour tout le monde, le corps, il descend. Mais le corps descend, mais mon être intérieur, il est sans arrêt renouvelé et tiré vers le haut par le Saint-Esprit. Et je vais même vous dire, plus vous êtes vieux, plus vous avez besoin de parler abondamment en langue. Pour que votre... Vous avez plaisir à Huguette. Plus vous êtes âgé, plus vous avez besoin de parler en langue. Ça va éviter à votre âme, à votre esprit, de sombrer, de descendre en même temps que votre corps. Votre corps, il vous tire vers le bas. C'est écrit, il va aller à la poussière. Votre corps, c'est comme ça, ça me plaît pas, mon, c'est comme ça. Le corps, il descend à la poussière, le corps, il me tire vers le bas au fur et à mesure que les années passent. Et si je veux pas que mon âme et mon esprit tombent et descendent en même temps
dans la tombe avec mon corps, le parler en langue, le Saint-Esprit me renouvelle sans arrêt, il renouvelle mon être intérieur et il me tire vers le haut. Le Saint-Esprit, quand je parle en langue, il me remplit de courage, il me remplit de force, il me remplit d'audace, il me remplit de hardiesse. Les gens qui sont autour de moi, je ne les regarde plus de la même façon. Je suis rempli d'amour, mais je n'ai pas peur d'eux. L'huile de l'esprit, bien sûr qu'on peut être consolé de différentes façons par le Seigneur, mais l'huile de l'esprit, quand je parle en langue abondamment, je permets à l'huile de l'esprit de couler abondamment en moi. Et l'huile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle guérit les blessures. Elle me guérit. C'est un baume. C'est une huile qui apaise, c'est une huile de consolation, c'est une huile de joie. Quand je parle abondamment en langue, c'est comme si j'ouvre les portes, les fenêtres, et je laisse le vent de l'esprit faire le ménage en moi, et puis oxygéner, renouveler l'air, et puis pour que je sorte de mes asphyxies, de mes limites, et il se passe quelque chose dans mon être intérieur. Ouah, il y a un vent frais et puissant qui passe, et qui me... Ouah, merci Seigneur. Ne retiens pas le parler en langue. Quand je parle abondamment en langue, le feu de l'esprit, l'huile, le vent, le feu de l'esprit, il peut me rendre zélé, me rendre brûlant, me rendre bouillant. C'est ce que je vous ai dit, il me donne la force, il me donne le courage, de la hardiesse, il me donne de l'audace. Quand je parle en langue, le fleuve, le symbole du fleuve, l'eau de l'esprit vient et elle coule abondamment et elle irrigue les parties desséchées de mon âme. Et tout ça, le Saint-Esprit, il le fait, il l'assure en chacun de nous. Ne retiens pas le parler en langue. Quand tu parles en langue, tu vas être 200% efficace dans l'intercession. Il y a tellement de fois, frères et sœurs, on sait même pas, on sait même plus quoi prier, comment prier pour tel. L'apôtre Paul dit, nous ne savons même pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Parfois, on est inspiré, on le sait, on sait ce qu'il faut. Puis, il y a des moments... Bon, Seigneur, bénis-le. Ben oui, c'est sûr, mais enfin bon, c'est très abstrait. Et là, avec le parler en langue, mon intercession, elle est 200% efficace parce que c'est le Saint-Esprit qui dit les mots et qui demande ce qui doit être demandé. Ça m'évite de réciter toujours les mêmes choses, ça m'évite de voir ma vie de prière calée, tomber à côté de la plaque, ça m'évite de caler, ça m'évite de me taire quand je sais pas quoi dire, quoi demander, je suis bloqué et puis... Et ma vie de prière, elle s'asphyxie. Je peux aussi être 200% efficace dans la louange, dans l'action de grâce. Quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Excellentes actions de grâce. Quand tu parles en langue, tu parles des merveilles de Dieu. Ce que l'Esprit dit va transcender toutes les limites naturelles de ton langage humain naturel. Et je peux enfin louer Dieu et l'adorer à la hauteur de ce qu'il est vraiment. Et puis, quand je libère le parler en langue, merci Seigneur, il peut me communiquer ses pensées. Parle en langue. Tu sais pas quoi, comment, tu sais pas. Mets ça entre les mains de Dieu et parle en langue. Et au fur et à mesure que ça se fait, le Saint-Esprit, il fait monter dans ton cœur, dans ton être intérieur, il fait monter des pensées. Il fait monter des inspirations. Et il me montre ce qui doit être fait, ce qui doit être dit. Et il m'inspire, il me conduit, il me dirige, il m'aiguille. Et tout ça, il le fait. Et quand j'ai retenu le parler en langue, ma vie, elle est comme ça. Je rame. Élargis l'espace de ta tente. Le Seigneur te dit, je peux faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Mais on ne contient pas le Saint-Esprit dans un dé à coudre. Élargis. Pour élargir, il faut renverser des murs. Pour élargir, évidemment, on s'engage dans des travaux. Et la pensée de Dieu, c'est vis-à-vis de certains prisonniers dans ton cœur, vis-à-vis de relations malsaines, vis-à-vis de ta propre vie, de ta propre consécration. Ne retiens pas, ne regarde pas ce que ça va te coûter, c'est un mauvais calcul. vis-à-vis de choses concrètes, de mon temps, de mon investissement personnel, de mon argent, de mes biens, de mes finances, et aussi en ce qui concerne l'usage de ma langue, le Seigneur me dit aussi, là aussi, ne retiens pas. Si tu retiens, c'est un mauvais calcul. Je peux faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Élargis l'espace, ne retiens pas. Tout ce que je retiens va empêcher Dieu d'agir et de me bénir. Vous savez, vous avez tous vu ça dans vos travaux ou dans les travaux de vos amis. Une fois que vous avez vu leur maison, leurs habitations matérielles, refaites, rénovées, vous avez dit en partant à votre femme, bah, « Dis donc chérie, ils ont fait les choses en grand. Hein. Ça a dû leur coûter. Hein. Oh, c'est beau chez vous. Ah oui, bah, je peux te dire que j'ai mis le prix. Hein. » C'est ça qu'on dit, c'est vrai ou pas? Pour ton habitation spirituelle, Dieu te dit, « Fais-moi plus de place. » Aménage-moi de nouveaux espaces de vie et d'action. Ne retiens pas. Ne calcule pas. Ne regarde pas la dépense. Arrête de calculer ce que ça va te coûter. Ne te retiens pas. Fais les choses en grand avec moi. Et je serai grand avec toi. Amen.